Bonjour. Donc voilà, je m'appelle Copernico. Je vais commencer la conférence qui est du coup un peu en retard, mais en avance. Bon, les horaires ont pas mal bougé. Qui s'appelle donc Le succès du jeu vidéo de l'année 2014 est libre. Je vais faire comme si vous saviez pas duquel je parle. Et on verra par la suite. Alors, j'ai une courte introduction sur pourquoi le jeu vidéo est libre. Parce que c'est une question qu'on a souvent quand même. Quand on fait du jeu vidéo libre, quand on se fait l'avocat du jeu vidéo libre, qu'on dit que c'est bien, qu'il faut en faire, qu'il faut y jouer, on a la question à quoi ça sert. Donc le premier réflexe face à cette question, c'est de se dire, bah en fait, c'est les mêmes raisons pour lesquelles on fait du logiciel libre, donc on reprend les mêmes arguments, on fait un copier-coller, et donc si le logiciel libre est une bonne idée, le jeu libre est une bonne idée. En fait, il y a certains arguments du logiciel libre qui ne s'appliquent pas du tout dans le cadre du jeu vidéo libre et qui du coup ne marchent pas sur les gens. Je vais prendre mes trois exemples concrets, mais typiquement, souvent on entend parler de sécurité, on dit le logiciel libre c'est bien parce que je sais ce qu'il fait avec mes données, donc c'est plus sécurisé parce que je peux lire le code et je sais ce qu'il fait avec mais je sais ce qu'il fait sur mon ordinateur. À la sécurité dans un jeu vidéo, finalement le jeu vidéo peut tourner sans aucun droit, donc on s'en fiche un peu. Il y a l'argument, je peux savoir, j'ai le droit de savoir ce qui tourne sur mon ordinateur, j'ai le droit de savoir comment fonctionne mon ordinateur et je peux aller voir le fonctionnement des logiciels. Dans un jeu vidéo, il y a beaucoup de cas où on n'a pas envie de savoir comment ça marche. Ou finalement, si on lit le code d'un jeu avant d'y jouer, on connaît la fin, c'est moins drôle. Il y a l'argument souvent on parle de besoin. On dit on peut adapter le logiciel libre à son besoin. Le besoin dans le jeu vidéo, c'est pareil, ça s'applique moins. En jeu vidéo, il répond à une envie, il répond pas à un besoin. On n'a pas tous la même vision. Donc c'est des arguments qui marchent pas très bien. Et en fait, il y a d'autres arguments qui marchent très bien. C'est les arguments de l'art libre. Si je peux éviter de rentrer dans le débat, est-ce que le jeu vidéo est de l'art? Le fait est que tous les arguments en faveur de l'art libre s'appliquent assez bien au jeu vidéo libre. Donc c'est plus des arguments des notions de pot commun, de créativité. C'est que si le jeu est libre, ça va déclencher de la créativité, ça va permettre à chacun de modifier le jeu et de présenter sa version du jeu. Donc on a de la créativité, on a également une liberté d'expression. Je peux dire quelle est ma vision du jeu. Et c'est ça qui, pour moi, est intéressant, et c'est pour ça qu'il faut faire du jeu vidéo libre. Et ça peut permettre à des gens qui n'avaient pas du tout la compétence de faire un jeu vidéo complet, de présenter leur vision d'un jeu vidéo en utilisant les briques qui ont déjà été faites par d'autres. Voilà, donc maintenant je vais entrer dans le vif du sujet avec un titre un peu plus honnête que le titre à couleur que j'ai mis sur le programme. Donc l'un des sujets du jeu vidéo du début de l'année 2014 est un jeu libre. Alors, je sais pas si c'est le jeu libre qui a eu le plus de succès, mais à mon avis pas loin. Et je pense que c'est de très loin le jeu vidéo libre qui a été le plus joué par des gens qui ne savent pas ce qu'est un logiciel libre. Alors, et qui ne voit pas de quel jeu je parle du coup, vu la conférence précédente, il y a des indices. Bon, voilà. Donc, ce jeu vidéo, c'est 2048. Alors, du coup, un petit sondage dans la salle. Qui a déjà joué à 2048, même juste une partie? Qui a déjà joué à 2048 dans la salle? Voilà, donc on va dire au moins à trois quarts. Alors, du coup, qui a gagné une partie de 2048 dans la salle? Ok, on en a deux. et donc, à titre de comparaison, qui a déjà joué à Battle for Bastnode dans la salle? Ouais, on n'est pas loin de la moitié. Qui a déjà joué à Super Twix Kart? On n'est pas loin de la moitié, mais c'est pas la même. Donc voilà. Et là, faut voir qu'on est dans un contexte très particulier parce qu'on est dans un événement logiciel libre. Si vous faites le même genre de sondage dans la rue, personne n'a entendu parler de Battle for Bastnode, personne n'a entendu parler de Super Twix Kart, et tout le monde a 2048 sur son téléphone dans sa poche. J'exagère un peu, mais dans l'idée, c'est ça. Alors. Le premier effet, c'est, attends, mais 2048, c'est libre? Et du coup, qui savait que 2048 était libre? À part, juste dans la conférence qui vient de passer, si vous venez de l'apprendre, ça ne compte pas, mais qui était au courant que 2048 est un jeu libre? Voilà, donc on a trois personnes, quatre dans la salle, ce qui est beaucoup moins que le nombre de joueurs. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Alors, la première chose qu'on peut voir, c'est qu'en fait, 2048, le code, il est sur GitHub. Déjà, quand on connaît GitHub, c'est bon signe. Il faut savoir que GitHub est gratuit uniquement pour les projets pour les projets publics qui font du code libre. Et quand on va vérifier, bah, effectivement, c'est une licence MIT. Alors, bon, le choix de la licence, il se trouve que c'est une licence permissive, ça, c'est peu d'impact sur la vie du jeu. On peut en parler, mais c'est pas super intéressant. Mais donc, c'est une vraie licence libre. C'est pas une licence libre obscure qu'on connaît pas. C'est une licence qu'on connaît, qui est reconnue par la FSF, par l'OSI. Donc 2048 est libre. Et alors, du coup, ouais, libre, d'accord, il est sous une licence libre. Mais quand je dis ça, souvent, ben derrière, on dit oui, non, d'accord, ouais, techniquement c'est libre, mais en pratique, qu'est-ce que ça change? Est-ce que vraiment 2048 est un projet de jeu vidéo libre? Est-ce qu'on peut voir 2048 comme un projet libre? Est-ce qu'il en a les caractéristiques? Est-ce que ces quatre libertés, elles ont servi à quelque chose? Alors j'ai repris les pictogrammes, je sais plus exactement où je les ai piqués, ça a été utilisé par les GM2L, par l'April. Qui représente les quatre libertés fondamentales, donc la liberté d'utilisation, d'étude, de redistribution et de modification sous des formes de pictogrammes. Donc, alors, la liberté d'utilisation, c'est facile quand vous arrivez sur le site de 2048, vous êtes déjà en train de jouer aux jeux vidéo. Donc, la liberté d'utilisation, elle est assez large. La liberté d'étude du code, on vient de la voir, le code est sur GitHub, donc vous pouvez facilement aller voir le code du jeu auquel vous êtes en train de jouer. Donc, on va plutôt se concentrer sur les deux autres, voir. Dans quelle mesure 2048 a été redistribué, modifié et redistribution des versions modifiées. Et donc d'abord, on va voir les versions dérivées. Alors, ouais, la conférence a été faite sur un écran plus grand. Donc les versions dérivées, alors là, je vous ai mis trois liens pour que vous compreniez bien, pour ceux qui connaissent pas. Les trois liens-là, c'est pas trois versions dérivées de 2048, c'est trois sites qui recensent toutes les versions dérivées de 2048. Il y en a un nombre incroyable. Du coup, un petit sondage, qui a déjà joué à une version dérivée de 2048 et pas à l'original? Voilà, il y en a, bon, on va dire une dizaine, c'est déjà bien plus que ceux qui savaient que c'était libre. Alors, j'ai mis du coup quelques exemples de versions dérivées. Je vous ai mis les plus graphiques, mais voilà, on a de la version où il y a plus d'axes de déplacement. Il y a des versions où on utilise des chiens. Il y a des versions avec des Pokémon, avec des logos Linux. Il y a des versions. Alors ça, je crois que c'est une histoire de PGCD ou de division. Je me souviens plus exactement. Il y a une version avec des euros. Ça c'est super drôle, puisque alors pour ceux qui ne connaissent pas bien le jeu de base, on additionne des nombres. Donc 1 et 1 font 2, 2 et 2 font 4, et on bouge les cases, ça fonctionne comme ça. Avec les euros, c'est beaucoup plus complexe, parce que pour faire une pièce de 5 centimes, il faut deux pièces de 2 centimes et une pièce de 1 centime. Donc ça change complètement la mécanique du jeu. Et on a le même problème, et pour faire 50 centimes, il faut une pièce de 10 centimes et deux pièces de 20 centimes. Et donc ça fait un jeu complètement différent, avec des modifications relativement mineures au code. Alors là, on a des nombres négatifs, ce qui change encore énormément. Là, on a des fractions, et là, ça devient n'importe quoi. Bon. Et alors, pour vous donner une idée, encore une fois, là, j'ai pris des versions dont je pouvais montrer des screenshots, parce que c'était des choses visuelles. Mais il y a aussi énormément de versions qui changent des détails dans le gameplay, que je peux pas vous montrer, mais il y a des 2048 en 3D, il y en a en 4D, il y a des 2048 déterministes, il y en a où on peut annuler ses actions, il y a des 2048 à l'envers, il y a des 2048, il y a des solveurs de 2048, des intelligences artificielles qui vont résoudre le problème et qui se basent sur le code du jeu. Il y a plein de choses. Je suis tombé sur une version où on joue en même temps à 2048, qui est donc un jeu de réflexion et de stratégie en théorie, et à Flappy Bird, qui est un jeu où il faut être super régulier dans l'appui des touches. Et donc chaque fois qu'on veut faire bouger son oiseau sur Flappy Bird, c'est-à-dire à peu près toutes les demi-secondes, on est obligé de faire un mouvement dans le 2048. Il y a vraiment plein de choses, et c'est vraiment ça fourmille de bonnes idées et de trucs rigolos, et c'est vraiment un truc. Donc vraiment, là on peut déjà voir que la liberté de modification, elle a été bien usée jusqu'au bout, et que ça n'a pas servi à rien. Alors, une autre caractéristique très importante des projets de logiciels libres au sens large, souvent c'est des projets communautaires. Alors on peut pas trop parler de communauté dans le cadre de 2048, c'est un peu plus flou que ça. Mais par contre, on peut voir qu'il y a quand même eu une question de contribution. Au début, on se dit, bah non, attends, 2048, c'est un pauvre jeu, il y a trois touches et demie, qu'est-ce qu'il y a eu comme contribution? Et ben en fait, si on arrive sur le GitHub, encore une fois, il y a déjà un petit texte qui invite à contribuer. Donc là, on a vraiment, ça a le goût du projet libre, ça sent comme un projet libre, c'est probablement un projet libre. On a un petit texte qui nous invite à contribuer, qui dit, si vous voulez contribuer, voilà le guide. Un projet qui a un guide de contribution qui explique comment il faut faire si on veut faire une contribution et l'intégrer dans le projet principal, c'est déjà un projet libre bien organisé et bien ouvert, et c'est plutôt bon signe. Et il y a donc sur la même page quatre contributions qui sont citées, qui ont été intégrées au projet principal. Donc il y a l'ajout de la gestion du meilleur score, il y a l'ajout de la gestion des gestes sur mobile, et ensuite il y a le fait que ces gestes fonctionnent sur Windows Phone et le fait que ces gestes fonctionnent sur des vieux Android. Mais donc on peut voir déjà qu'il y a au moins 4 personnes, et derrière il en cite d'autres, donc a priori une dizaine de personnes qui ont fait des contributions, qui les ont proposées et qui ont été intégrées au jeu lui-même. Donc là on a vraiment des mécaniques de projet libre classique. Alors ensuite, souvent un jeu libre c'est packagé, ce qui est super pratique. C'est beaucoup moins vrai dans le cas de 2048. Probablement c'est très lié au fait que ce soit un jeu web et qu'on l'installe pas pour jouer sur son PC, on l'installe sur un serveur et on y joue à distance, c'est un peu particulier. Alors c'est packagé dans Arch Linux parce qu'à peu près tout ce qui existe est packagé dans Arch Linux. Je vous ai mis le lien et le screenshot. J'ai trouvé un paquet Ubuntu, mais sur un forum italien perdu au milieu d'Internet. C'est pas un paquet officiel qui est dans les dépôts, alors que ça pourrait techniquement, on pourrait avoir 2048 dans les dépôts Ubuntu, et on devrait, si vous êtes packager d'une distribution, je vous invite à packager 2048. Et c'est packagé sur F-Droid, qui est un dépôt de logiciels libres pour Android. Et ça me permet une super transition, puisque mon sujet suivant, c'est les ports. Parce que ça concerne pas trop le logiciel libre, mais dans le jeu vidéo libre, souvent le fait qu'il soit libre permet de le porter sur plein d'architectures différentes, sur plein de consoles différentes, sur plein d'outils différents. Et là on a vraiment le cas, 2048 a été porté sur à peu près tout ce qui existe. Donc là je vous ai mis en pêle-mêle des technologies, des choses. Donc on a l'Open Pandora qui est une console de jeu libre. Il y a une version 2048, il y a une version en Qt, ce qui permet d'avoir une version native. Il y a une version, il y a un port en Bash pour pouvoir y jouer dans le terminal. Alors j'ai mis la PSP, mais il y a toutes sortes de PlayStation, de consoles Nintendo, il y a un peu de tout et n'importe quoi. Le screenshot au milieu, c'est une Game Boy. Il y a quelqu'un qui a porté 2048 sur Game Boy, oui. Vous pouvez aussi le voir sur Beatbox à l'étage. Donc là encore, c'est vraiment un truc qu'on a dans le jeu libre et qui a fonctionné pour 2048. Si votre jeu est libre, on pourra le porter sur plein d'autres plateformes. Une petite anecdote personnelle, j'ai contribué à un jeu libre qui a été packagé pour Debian. Et un jour, je teste pour rigoler Debian Heard, voir parce qu'ils avaient sorti Debian Heard sous forme d'ISO, et je me rends compte que mon jeu, et je peux l'installer, je peux y jouer sur Heard. Et j'aurais jamais eu l'idée d'aller compiler mon jeu sur Heard, mais ils l'ont fait et ça marche. Donc si votre jeu est libre, les gens le porteront sur tout ce qui existe et ça peut être super rigolo. Voilà, et enfin, un truc qu'on retrouve dans beaucoup de projets de jeux libres, c'est l'appel aux dons, c'est si vous avez bien aimé, laissez-nous une petite pièce, etc. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le cadre 2048, donc ça a été dit dans la conférence précédente. On a sur la page du jeu, tout en bas, un bouton de don PayPal et un bouton de don Bitcoin. Et du coup, c'est un cas super intéressant à étudier parce que c'est une question qu'on se pose souvent. Finalement, le don dans le jeu vidéo, est-ce que ça marche? Est-ce qu'on peut avoir des sous par le don? Et là, 2048, c'est quand même un truc qui a eu un succès fulgurant. Donc, si ça marche pas pour 2048, c'est qu'a priori, ça marchera pas pour grand monde. On n'a pas de nombre officiel. En fait, pour PayPal, on peut pas savoir, il l'a pas dit. Par contre, pour Bitcoin, on peut savoir. Ce que j'ai vérifié avec l'Internet Archive, c'est la même adresse Bitcoin qui est utilisée pour les dons depuis le début de 2048. Et donc comme la chaîne des blocs est publique, on peut aller vérifier. Et donc il a touché 1,91 Bitcoin depuis le début de 2048, ce qui revient à peu près $800. Si 2048 n'a fait que $800, c'est mauvais signe pour le système du don. Même si on imagine qu'il a eu 10 fois plus par PayPal, ça veut dire qu'il atteint difficilement les $10,000. Pour un succès aussi fulgurant, c'est mauvais signe pour des gens qui espéraient faire un modèle économique à base de dons pour le jeu vidéo. En tout cas, sous cette forme-là. Voilà, alors en conclusion, je voulais donc ce que j'ai essayé de démontrer, c'est que le fait que 2048 soit libre, c'est pas un détail, c'est quelque chose qui a joué dans son succès. Un truc tout bête que j'ai noté, mais c'est que j'ai pas fait une étude précise, mais dans mes souvenirs des articles de blog et de presse que j'ai vu parler de 2048, il y a eu une première vague quand 2048 est devenu populaire, est devenu jeu à la mode. Il y a une première vague qui disait regardez ce jeu-là, il est génial, allez y jouer, il est super addictif, il nous fait perdre la productivité, etc. Et il y a eu une deuxième vague plusieurs semaines plus tard qui disait regardez tous les mecs qui ont fait des versions dérivées de 2048, c'est complètement délirant. Et donc le fait qu'il soit réutilisé, remodelé, modifié, le fait donc qu'il soit libre, lui a permis d'être médiatisé plus longtemps. Donc voilà, c'est sûr que 2048 aurait pu avoir du succès sans être libre, c'est évident, mais il en aurait eu à mon sens beaucoup moins. Alors, je voulais aborder très, très très rapidement le cas de Swiss, parce qu'en fait 2048 a repris son système de son gameplay d'un jeu qui s'appelait 1024, qui lui-même avait repris cette idée d'un jeu qui s'appelait Swiss, qui est donc grosso modo une version plus complexe de 2048. Et les créateurs de Swiss ont fait un billet de blog immense où ils racontent un peu comment ils vivent le succès de 2048, qui donc n'est pas leur jeu mais a beaucoup d'éléments de leur jeu. Et où ils disent que ils disent beaucoup de choses, mais ce que j'ai retenu, c'est qu'ils sont à la fois contents de voir que leur idée de jeu fonctionne, et assez tristes que ce soit pas leur jeu à eux qui ait eu ce succès-là, et qui considèrent quand même que 2048 est une version simplifiée beaucoup moins intéressante de leur jeu, et que Swiss vraiment il est beaucoup mieux, et que il y a beaucoup plus de choses, et qu'on peut vraiment s'amuser plus longtemps. Moi, j'ai lu cet article de blog-là, je suis arrivé au bout, je me suis dit ouais, mais en fait ça se trouve c'est génial, faut que j'aille y jouer à ce truc-là. Comment on y joue? Ben en fait, on peut pas. Il faut avoir un mobile de la bonne marque et il faut acheter le jeu sur leur store. Et je pense que ce qui fait que c'est pas Swiss qui a eu ce succès-là, mais 2048, une des raisons, c'est que justement 2048 a les deux premières libertés d'utilisation et de redistribution. Voilà, ouais, la première et la troisième. Et que on pouvait y jouer. Et quand on arrive sur le site de 2048, on est déjà en train de jouer, on n'a pas le choix. Du coup, on essaye, on se rend compte, on sait si on aime ou pas. Swiss, pour y jouer, déjà, il faut payer. Et ensuite, on peut y jouer que sur mobile. Moi, j'ai joué principalement 2048 sur PC et il faut avoir la bonne marque de mobile. Donc, ils ont trop restreint leur base d'utilisateurs et je pense que si Swiss avait été libre, c'est peut-être lui qui aurait eu ce succès-là. Voilà, et donc je voulais bien sûr rappeler que c'est un cas super particulier. 2048, ça veut absolument pas dire que si un jeu est libre, il aura un succès fou. C'est un cas super particulier, mais c'est aussi ce qui le rend intéressant, c'est que c'est vraiment un cas fou. C'est un jeu super simple qui a été développé super rapidement et qui a eu un succès énorme. Et j'espère vous avoir convaincu que sa licence libre n'y était pas pour rien. Voilà, j'espérais pouvoir mettre en lumière le succès de ce jeu libre qui est passé un peu inaperçu au début. Maintenant, on commence à en parler. Si vous avez des questions.
De l'intérêt pour le livre, et tu as sauté assez vite sur la liberté d'utilisation, et je pense que c'est plus important si par exemple tu es malvoyant dans le jeu vidéo, ça peut être intéressant que le jeu soit libre, parce qu'on peut adapter le jeu à des handicaps.
Ouais, c'est une des utilisations. Alors, je reprends la question dans la réponse pour
moi. C'est une des utilisations. Enfin, je reprends la question dans la réponse pour l'enregistrement, mais c'est une des utilisations possibles des libertés d'adaptation du jeu vidéo libre, c'est qu'il peut être facilement adapté pour l'accessibilité pour les handicapés. Ça s'est vu par le passé. En fait, un jeu vidéo, dans certains cas, un jeu vidéo bien fait qui a un rendu sonore de bonne qualité peut être très facilement adapté pour les joueurs aveugles. Et c'est pour moi l'intérêt aussi, un des intérêts du logiciel libre et du jeu libre, c'est qu'on peut pas imaginer ce qui sera fait de notre jeu. Et du coup, vouloir limiter la manière dont il va être utilisé et modifié, c'est bête. Il vaut mieux dire, faites ce que vous voulez avec, et les gens feront des choses dingues. Il y a un mec qui a fait un truc de PS Doom, c'est un truc pour gérer ses processus avec Doom. Donc tous vos processus apparaissent comme des monstres, et quand vous tuez un monstre, ça tue le processus. Et le mec a fait tout un article, il explique qu'il pense sincèrement que Doom est la meilleure interface possible pour gérer ses processus. Je pense pas que les mecs qui ont fait Doom auraient imaginé qu'un truc comme ça existe un jour. C'est un truc de dingue. T'as parlé du moteur de Quake tout à l'heure. Il y a des jeux de voitures qui utilisent le moteur de Quake. C'est un moteur de FPS. On peut pas imaginer comment un jeu sera réutilisé, donc il vaut mieux en laisser la liberté. D'autres questions? Bon, je crois que c'est tout. Je vous remercie de votre écoute.